ferons-nous demain ? Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, territoire, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va inaugurer une formule un peu différente de la chronique habituelle parce qu'on va faire un débat avec Chloé qui est une dynamique stagiaire élève de l'école de journalisme et nous allons évidemment parler toujours des mêmes thèmes et à cette occasion, je rappelle le titre de l'émission « Où vivrons-nous demain ?» qui est tiré d'un ouvrage d'un auteur qui aujourd'hui est passé de mode, Michel Ragon, et qui était un spécialiste, on peut dire, de la critique architecturale et d'urbanisme, et qui a publié cet ouvrage dans les années 60, je crois la date exacte est 1964. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il se sert de l'expertise de l'époque, de l'expertise, on peut dire, scientifique, en faisant appel toujours aux connaissances et aux experts. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans cet ouvrage, il n'y a rien qui a été prévu, qui ne s'est passé. Alors ça nous amène à un regard un peu critique, ou en tout cas distancié par rapport aux prédictions d'aujourd'hui, mais on est bien obligé d'avoir de toute façon un débat sur l'avenir, et c'est le but du débat d'aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à Chloé qui va poser les termes du débat.
Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre me laisse la parole dans son émission d'habitude solitaire. Sans plus tarder, commençons. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question des écovillages. Et donc, je vais interroger Jean-Pierre, qui est un spécialiste d'architecture, donc à ce sujet. Mais alors, pour le cerner, il est important de savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'un écovillage ? Les écovillages, également appelés écolieux ou écohameaux, sont des modèles économiques alternatifs et solidaires qui rassemblent des communautés dans des lieux à taille humaine. Ces micro-sociétés, organisées autour de projets communs, ont pour objectif de replacer l'humain au cœur de son environnement en privilégiant des principes éthiques de partage, de démocratie et d'écologie. Solidarité, harmonie et retour à l'essentiel sont donc les maîtres mots. Il en existe plus d'une trentaine en France aujourd'hui selon la carte recensant les écovillages que j'ai pu consulter et on compte 2000 écolieux en tout genre. Ce sujet soulève donc trois axes principaux dont nous avons parlé un peu précédemment Jean-Pierre. La réalité écologique de ces lieux d'abord, ensuite la viabilité économique d'un tel projet de société et enfin le désir de la population quant à lui. Donc comme je le disais précédemment, Jean-Pierre va nous faire part de son point de vue de spécialiste sur les questions que soulèvent les écovillages et nous allons aussi débattre autour de ces questions et il semblerait qu'on ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde d'ailleurs. Alors commençons sans plus tarder et abordons la première grande question, est-ce qu'un écovillage c'est vraiment écologique ? On entend par là que l'empreinte carbone des activités humaines qui s'y produisent sont proches du neutre et qu'elles sont réalisées de manière à s'adapter davantage aux capacités de l'environnement. Alors Jean-Pierre, est-ce que selon vous, les écovillages tâtent l'irréprochable au niveau de l'écologie ?
Alors, évidemment, on présente les écovillages comme quelque chose de nouveau. Je voudrais prendre un peu de recul et montrer qu'il s'agit en fait des deux alternatives civilisationnelles, que toute l'histoire a connues, c'est-à-dire le regroupement denses que l'on peut appeler urbain et aussi une sorte de dispersion territoriale qui est une occupation du territoire et on peut retrouver ça dans notre propre histoire avec certains passages beaucoup plus d'urbanité par rapport à cette dispersion. Après, la caractéristique qui est intéressante est de savoir quel est le rapport au territoire et avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'écologie, mais qui est en fait l'économie agricole, l'économie globale et alors évidemment les changements que ça peut amener sur l'environnement. Mais je pense qu'il faut repasser ce terme. D'autant plus que la densité, pour les écologistes, est aussi un élément central. Alors on se trouve en fait avec l'approche écologique devant deux options et je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas eu de débat. Et on peut qualifier d'une position à une autre la position adverse comme nocive, par exemple les écovillages, c'est-à-dire la solution de communautaire et de dispersion, peut être aussi qualifiée de, d'étalement urbain. Et donc, de ce fait, va être combattue par une branche de l'écologie qui va être, on peut dire, pour la densification et aussi pour, on peut dire, aucune implantation nouvelle et aucune urbanisation sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait conserver les villes telles qu'elles sont aujourd'hui. Et on dit aussi faire la ville sur la ville, c'est-à-dire que ça serait réhabilitation ou alors démolition, reconstruction sur le même territoire, sachant que les terrains sont interdits de nouvelles constructions. Je vous dirais que c'est la politique actuelle du gouvernement. Alors, la position des écovillages, moi j'essaie d'avoir une position la plus neutre possible, de ne pas mettre de l'affect et de la morale sur ces positions et de voir les avantages et inconvénients et aussi de les replacer dans un contexte historique. Donc, je ne sais pas ce que Chloé peut penser de la position aujourd'hui de dire on ne peut plus urbaniser et des nouveaux terrains, parce que ça veut dire que ces écovillages seraient condamnés, puisqu'on ne pourrait qu'utiliser des villages anciens, et on ne pourrait pas construire de nouveaux villages avec les données aujourd'hui de la modernité, de la technique.
Alors en fait, ces écovillages, ils sont construits justement de manière complètement durable, on peut dire ça comme ça. Vous parlez, la première fois que j'en ai parlé, vous avez parlé de maisons en paille. Mais vous avez presque raison, en fait, puisque c'est vraiment avec des matériaux réutilisables. Et par exemple, ils s'alimentent en énergie uniquement...
J'entends bien, voilà. J'entends bien, Chloé. Mais le problème, c'est que ce soit en paille, en bois ou en brique, pour reprendre les trois mots des petits cochons de l'histoire... Il faut un permis de construire. Il faut donc des déclarations d'urbanisation et il faut qu'il y ait, par exemple, des réseaux. Donc aujourd'hui, on ne peut pas sur nos territoires, ce qui se faisait avant, où on n'avait pas des réglementations contraignantes et on pouvait décider de créer un village. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cette position. Donc le paradoxe, c'est que on est pour zéro artificialisation des sols, mais quel que soit le matériau avec lequel on va construire, on est obligé d'urbaniser. Oui. Donc c'est contradictoire avec la position de zéro artificialisation des sols.
Et surtout en parlant de, vous parlez de permis de construire, en fait, leur volonté, c'est un peu de s'écarter de la société qu'on connaît nous aujourd'hui. Donc vous voulez dire qu'en fait, même en voulant s'en éloigner, ils y sont toujours un minimum attachés puisqu'ils ont besoin de ces autorisations pour...
Tout à fait.
Alors après, ouais, c'est très marginal après comme construction. Je ne suis pas sûre qu'ils aient tous les autorisations parce que...
Ah ben, mais c'est
on va en parler dans la partie économie, mais c'est très très marginal.
Oui, mais le problème, par exemple, des ZAD, elles ont été détruites parce qu'en fait, elles ne respectaient pas les réglementations. Donc on se met en danger avec à la fois des obligations qui vont être d'assurance, d'assainissement et justement qui vont... qui sont, on peut dire, contraignantes, ou alors on peut considérer que c'est un bienfait parce que c'est... des problèmes d'hygiène qui sont résolus. Mais là, on est vraiment sur un vrai problème, sur cette opposition. Et ma position par rapport à cela, j'ai pas, si vous voulez, une position personnelle, si ce n'est qu'il y a l'obligation... Il y a l'obligation, dans un cadre légal, et on ne peut pas aussi cantonner notre débat à juste des expériences marginales qui seraient à côté de la loi, parce que c'est un vrai problème qui est posé. Et on va voir, par rapport à ce que vous disiez sur les souhaits des populations, effectivement, quelles que soient ces formes de villages au niveau des matériaux, il y a un désir des populations. Aujourd'hui, semble-t-il, les populations sont ouvertes à des nouvelles expressions architecturales ou même de matériaux. Mais la question, c'est un choix. Est-ce qu'on vit à la fois dans un village ou est-ce qu'on vit dans la ville? Et je pense qu'on va parler au fil de cette émission des réalités urbaines. Et est-ce que notre société, en fait, je rembobine, mais je repose la question, est-ce que le futur est la métropolisation ou est-ce que le futur, c'est une forme d'éco-village? Et par rapport à ça, je n'ai pas une position ferme, puisqu'en fait, moi, je ne suis pas un idéologue. J'essaie de renseigner avec les éléments de mon métier.
Mais alors, on va parler de tout ça donc, dans la suite. Mais alors, pour revenir sur la question de l'écologie, vous pensez que par juste en fait, leur construction, ils ne peuvent pas s'approcher d'une empreinte carbone neutre, en fait, c'est ça, ça les...
Mais ça, c'est...
Parce que oui, dans la production, ils sont plutôt irréprochables. Ils sont dans une optique de ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut nous donner, d'être dans quelque chose d'assez décroissant, etc. Donc ça, c'est quand même...
Oui, mais ça, je peux adhérer. Mais ça me semble un problème qui est secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème marginal. Mais le premier problème, c'est le choix d'urbanisation. C'est-à-dire qu'au niveau d'un État, on décide de faire une politique, par exemple, qui va autoriser la dispersion des sols parce qu'elle correspond à la dispersion sur le territoire avec des choses qui ne sont pas n'importe quoi, en respectant, par exemple, ces objectifs que vous énonciez sur la préservation de l'environnement et de l'empreinte carbone, etc., et que l'on peut tout à fait trouver légitime. Mais le problème de fond va être, ce n'est pas que des expérimentations marginales, mais comme c'est un souhait de la population, est-ce qu'on peut organiser sur un plan national dans notre pays, par exemple, une dispersion, on peut dire, enfin une croissance par rapport à une forme nouvelle qui serait celle que vous proposez dans ces éco-villages, sachant que une grande partie de la population peut adhérer à cela.
D'accord. Bon, bah, je vous propose alors d'avancer et de se concentrer sur un autre axe très important qui est celui de l'aspect économique dans ces sociétés. Pour rappel, dans ces lieux, ils ont leur propre microéconomie, si on peut dire ça comme ça, et même leur propre monnaie pour certains. Par exemple, dans un éco-village du Lot appelé Terra, ils ont créé l'abeille, qui est une monnaie qu'ils essaient d'installer dans leur cercle de producteurs, etc., donc qui développe vraiment dans un cercle très restreint. Alors, selon vous, est-ce que c'est viable économiquement au long terme, cette histoire?
Oui, alors je pense que là, on est sur des positions utopiques, et ce n'est pas nouveau. Ces expérimentations, elles ont été faites, on peut dire, au moment des hippies dans les années 60-70. Bon, ces communautés, souvent, bon, elles se sont transformées, en fait, dans des villages normaux, et il n'y a pas eu il n'y a pas eu une grande continuité par rapport à ça.
Ça vous amuse.
Mais pour revenir encore une fois à cette position avec la ville, ce qui me paraît le plus important, parce que ce modèle, même si il vit en autarcie, le problème, encore une fois, ce n'est pas, à mon sens, c'est assez marginal, le mode d'autonomie. Ce mode d'autonomie, je le crois assez utopique. C'est sympathique, effectivement, les communautés qui restent, mais c'est quelque chose qui ne peut pas perdurer. Moi-même, j'ai travailler sur les problèmes d'habitat partagé. J'ai assisté à des colloques sur ce sujet qui me paraît tout à fait intéressant. Vous savez ce que c'est l'habitat partagé? C'est à peu près ça aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on met en commun des jardins, on met en commun des services, on met en commun des salles pour des réunions
et
on vit dans des appartements un peu plus petits. Alors c'est assez sympathique. Le problème, c'est que on se trouve toujours à un problème d'une génération et le passage d'une génération à une autre. C'est-à-dire qu'en fait, soyons clairs, que quand il y a les gens qui meurent et le problème de l'héritage, on se trouve à la remise en question de ces modèles parce qu'on n'est pas éternel.
Oui.
Ça, c'est un peu la question. Mais c'est une solution intéressante, mais le problème, c'est que on n'arrive pas à faire une pérennité sur une longue période.
Oui. Mais ça pose la question de la communauté. En fait, c'est vraiment un entre-soi. Enfin, si, c'est vraiment une communauté très restreinte qui se développe qu'entre elles. Et le but est de ne pas s'étendre, du coup. Parce que c'est vrai que, bon, là, je vous parlais de l'abeille. Je pense que c'est un petit peu compliqué de conquérir la France avec une monnaie pareille. Et d'ailleurs, je rappelle que, en fait, dans ces micro-économies, c'est là leur volonté, en fait, de s'éloigner de l'euro. En fait, c'est que leur but, c'est la solidarité avant tout et ne pas faire de l'argent sur le dos des autres, en fait. Ne pas écraser, ne pas gravir les échelons, c'est plus être tous à la même hauteur et l'entraide, quoi. C'est vraiment pas basé sur le système économique capitaliste qu'on connaît aujourd'hui, quoi.
Alors, la position inverse de la ville, c'est de dire c'est la campagne et le village où les lotissements même sont des lieux où tout le monde est seul et isolé. Et donc, il n'y a que la ville où il y a la communauté. Ça, c'est un point de vue aussi qui peut être... qui peut être développé, c'est-à-dire que on entend dire que c'est dans les villes, on entend dire que c'est dans les villes qu'il y a la solidarité et que les campagnes, on parle du désert médical, on parle de l'isolement aujourd'hui, sachant que là aussi il y a certainement une fausse vision. Par exemple, quand on parle de la France périphérique, on pense qu'il n'y a que les villes denses dans lesquelles il y a du confort, de la richesse et de la culture, et que la périphérie, c'est-à-dire en fait le grand territoire français, ne serait fait que par des gens déclassés. Donc tout ça me semble faux, et je pense qu'il y a un véritable débat entre justement cette position. Alors, à travers cet exemple, on peut l'amorcer justement de ces éco-villages qui sont, je pense, une forme un peu extrême utopique. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a une solidarité dans le rural, on pourrait dire, et ou alors ce n'est que dans les villes. Personnellement, pour donner mon opinion, je pense que les villes, il y a, je pense, une vision un peu romantique de la ville. La ville, je pense qu'on n'a pas d'entraide entre voisins, même si on essaie de faire des repas de voisins ou des choses comme ça. Et que la ville, c'est justement la manière d'être seul. On veut échapper au groupe communautaire, et je pense que les humains, nous sommes devant deux tentations. Une, celle de l'entraide, mais l'entraide, elle peut être aussi étouffante, et parce que l'entraide, c'est la surveillance, à tous les points de vue, que ce soit familial, sexuel, etc. On est sur cette surveillance. Et puis, la ville qui est à l'opposé, qui va être justement l'anonymat où chacun peut vivre sa ville. Par exemple, les films là du réalisme italien de l'après-guerre montre bien ces expériences de ces villages du sud où on est totalement épié, où toutes les vies sont conformes par rapport à une morale étroite, et que il y a une migration vers le nord de l'Italie justement pour échapper à ce contrôle social par rapport à ça là. Voilà, ça me semble les termes du débat.
D'accord, et je pense qu'on va se faire une petite pause musicale avant de passer à notre dernier axe de la question des éco-villages. Alors, ce sont les ingé-sons qui nous ont choisi la pause musicale, donc la surprise est entière. êtes bien sur Esprit Occitanie, la web radio, et vous écoutez Où vivrons-nous demain ? Voilà, alors on est toujours avec Jean-Pierre donc sur notre sujet des écovillages et maintenant on va aborder notre dernier axe, la question de la population française et plus précisément son désir de vivre ou non avec un mode de vie si particulier. Alors est-ce que vous pensez, Jean-Pierre, que les gens sont prêts à quitter leur confort quotidien, leur vie consumériste pour se tourner vers ce genre d'avenir ?
On a d'abord un problème complexe, c'est le problème du logement en France. Et on sait qu'aujourd'hui, avec même la crise que nous venons de subir, la crise sanitaire, on a une augmentation au niveau des matériaux, aussi une fragilité économique. Et donc, associé à cela, des réglementations qui sont paradoxalement de plus en plus complexes et qui renchérissent le coût de la construction. Donc on se retrouve avec un décrochage pour les classes moyennes qui ont du mal à l'accession à la propriété et aussi une augmentation des prix du locatif. Donc on est sur un problème du logement. Alors ça c'est la première question qui est une question très importante. Et on peut regretter que dans la campagne présidentielle que nous venons de vivre, mais aussi dans cette campagne législative, donc on n'a pas très bien saisi justement certains enjeux de civilisation, enjeux de société qui me paraissent importants, et que ce problème du logement n'ait pas été un élément majeur et a été grandement ignoré, parce que quand on fait des sondages, on se rend compte quand même c'est la dépense première pour les couples et pour les familles, et c'est un peu curieux que ça passe à la trappe. Donc, pour revenir à la question que vous posez, par rapport au souhait des gens, je pense que le souhait des gens, d'abord, c'est d'être logé confortablement. Et la demande que l'on entend, mais évidemment, on ne sait pas très bien quel est le modèle, puisque la question n'est pas posée d'une manière très complexe, le modèle, ce n'est pas la vie en immeuble, mais c'est la vie dans la maison individuelle. Et la crise du Covid, qui a enfermé les gens chez eux, on sait très bien que les gens qui avaient des appartements urbains, n'ayant plus le droit de sortir, ont eu une vie beaucoup plus difficile que les gens qui avaient une terrasse déjà et un jardin encore mieux.
Oui, ça nous a poussé vers l'inverse de l'écologie, en fait, l'inverse de l'éco-village quelque part.
Alors, parce que les éco-villages pourraient être sous une forme, on peut dire, réaliste. Alors peut-être sans l'utopie dont vous parlez de la monnaie, etc., Chloé, mais on pourrait penser que entre la maison individuelle qui est faite d'un laisser-faire assez laid, des opérations qui seraient beaucoup plus maîtrisées sur un plan de l'urbanisme et sur un plan de l'architecture avec au niveau aussi de la fabrication, c'est-à-dire on arriverait à baisser les coûts et on pourrait correspondre justement à cet objectif écologiste, on pourrait imaginer que ça devienne non pas des opérations marginales, mais à la fois répondre aux besoins des populations et puis à la fois aussi aux préoccupations actuelles d'économie et de préservation environnementale. On pourrait trouver une solution, c'est-à-dire que un intermédiaire entre le laisser-faire aujourd'hui par les lotisseurs et par les fabricants de maisons individuelles, la solution qui me paraît irréaliste également, enfin qui me paraît vraiment irréaliste, c'est de dire il faut bâtir sur le bâtir et sur le bâti, et on ne peut faire que de la réhabilitation, ce qui ne correspond pas du tout aux besoins démographiques du pays. Et donc ça, c'est une solution absolument absurde. Donc la seule solution, c'est de construire. Et pour construire, effectivement, il faut que les choix soient posés. Et je pense que la question de l'éco-village, même s'il y a des positions extrêmes, on peut trouver des solutions intermédiaires qui correspondent aux gens. Voilà, c'est me semble-t-il, une approche réaliste.
Pour les éco-villages tels qu'on les connaît aujourd'hui, donc de manière plutôt extrême, hein, du coup, comme on l'a vu précédemment, Je tiens à dire que tout le monde ne peut pas vivre en éco-village, évidemment. Les créateurs eux-mêmes le disent. Ce modèle de vie, ça peut évidemment pas convenir à tout le monde. Et l'idée, c'est pas d'abolir un système de société qu'on connaît et le remplacer par celui-ci comme si c'était la solution absolue, mais c'est de le mettre à disposition de ceux qui se sentent plus bien dans cette société qu'on connaît, nous. Et d'ailleurs, il est possible de se rendre dans des éco-villages et d'y contribuer de manière ponctuelle, temporaire. Par exemple, pour un séjour, il y a des gens, je regardais des reportages sur les éco-villages, il y a des dentistes, par exemple, qui évidemment ne peuvent pas vivre en éco-village à l'année, qui viennent pour se ressourcer, on peut dire, le temps de vacances, et ils en profitent pour y contribuer, faire évoluer le projet. Donc, tel qu'on les connaît aujourd'hui, les adeptes des écovillages ne tiennent pas à abolir notre vie à nous, notre société à nous. C'est vraiment deux sociétés, disons, qui pourraient se compléter plutôt, en fait. Qu'il n'y ait pas de choix radical à faire entre les deux.
Oui, j'entends ça parce que je pense qu'il y a un mouvement politique qui est lié à ça, et moi j'essaie on peut dire, d'enlever l'idéologie et d'être plus près de ces réalités, donc qui sont le bâti, le coût, l'urbanisation des problèmes. Ce qui est un peu gênant, c'est que, je pense que c'est à peu près la thématique que je développe au cours des émissions, c'est de mettre sur des choix de société, sur des choix de vie, pardon, des choix justement de société, attendu qu'il s'agit de choix de vie. Alors, on peut adhérer, et je respecte tout à fait ces choix, mais la question, justement, me paraît beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large, et justement sur ce problème d'une nouvelle urbanisation et un nouveau développement qui pourrait être lié à cela. Voilà, donc ce serait intéressant de proposer une solution intermédiaire, réaliste, et alors on aurait d'un côté, si je vous suis Chloé, ces écovillages qui pourraient être un modèle un peu radical, mais on pourrait obtenir aussi des solutions intermédiaires qui correspondent à peu près aux ambitions dont on a parlé, hein, environnementales, et aussi, on peut dire, d'entraide communautaire. Par exemple, on sait l'évolution qu'il y a eu récemment avec le télétravail. Bon, c'est pas le télétravail, il existait déjà. Simplement, la crise a fait développer. On s'est rendu compte que on n'avait pas forcément besoin pour faire une réunion de 10 personnes, qu'on pouvait la faire par Zoom, que c'était beaucoup plus rapide. Et on a énormément aujourd'hui de gens qui restent chez eux, qui peuvent faire des tâches. Donc, on a une adaptation qui s'est faite par un événement négatif, mais qui pourront être vues comme positives. C'est-à-dire, en gros, le problème, par exemple, de l'habitat et du travail, je pense qu'on était, par exemple, sur un leurre en disant « le travail dans les villes ». Mais non, le travail n'est plus dans les villes. Il y a bien longtemps que le travail n'est plus dans les villes. Le travail dans les villes, c'était déjà Haussmann, au 19e siècle, a commencé à enlever les usines de Paris. Et on a ce même phénomène, évidemment, qui s'est passé partout. Et on peut dire que dans les 30 dernières années, prenons Toulouse, puisque nous y sommes, les bureaux sont sortis de la ville. Les activités, l'artisanat, n'en parlons pas, les bureaux. Et on a un centre-ville qui est résidentiel, et on peut dire festif. Regardez la rue des filatiers, il n'y a plus de filatiers depuis longtemps, mais il y avait aussi des petits commerces différents, et aujourd'hui ce sont des restaurants et des bars, et c'est une évolution.
D'accord, bon, c'est un autre débat, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission en duo. Un mot de la fin peut-être, Jean-Pierre, sur les écovillages, puisque l'heure tourne.
Oui, mais écoute, moi je suis tout à fait intéressé intellectuellement à ces nouvelles expériences. Je vous avais parlé de l'habitat partagé, et c'est tout à fait dans cette optique. Je pense qu'effectivement, des expériences communautaires qui peuvent être intergénérationnelles, par exemple, enfin, ou ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire partiel aussi, des gens qui vont faire, par exemple, au lieu d'un 3 mois de vacances dans un autre mode de vie. Je pense que tout ça est enrichissant et cette diversité est intéressante sur un plan de la démocratie d'un pays et du choix de vie de chacun.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli dans votre émission et puis d'avoir parlé des écovillages avec moi. Je vous laisse peut-être conclure cette émission, vous en avez l'habitude.
Mais voilà, donc merci Chloé, c'était tout à fait intéressant. Nous allons reprendre sur des thèmes différents notre travail de duettiste. Donc, ben voilà, donc à la semaine prochaine. Merci de votre écoute. C'était Où vivrons-nous demain ? Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application smartphone. Bonne journée à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Où vivrons-nous demain ?